L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radiojournals. Au sommaire, plus de 5600 sinistrés vivent aujourd'hui dans des conditions extrêmement précaires à Bouzi, dans le territoire des Cabarets, avec déjà 10 morts enregistrés. Ce, malgré les alertes répétées depuis 2 ans, aucune solution durable n'a été mise en place. Des écoles détruites, des familles sans abri, sans nourriture ni soins, et une détresse qui s'aggrave. Face à cette situation, les victimes lancent un appel pressant à l'aide. On y revient dans ce radiojournal. Également dans cette édition, renforcer la protection des œuvres et garantir une rémunération équitable aux auteurs devient une urgence face à la montée des piratages. Ainsi, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, l'Union des écrivains du Congo, section du Tout-Kivu, lance un message fort appelant à l'implication de l'État, des éditeurs et du public. La technique est assurée par Alain Zar. Au microphone pour la présentation, je suis Omer Moudekiriza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent détail. Et débutons cette édition du journal par cette information. Le processus de pourparlers entre l'AFCM-23 et le gouvernement de la RDC est encore lent, mais des avancées sont perceptibles et offrent une chance pour un retour de la paix dans le futur. C'est ce que pense Pierre-Joseph Mugangu, analyste politique et membre de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Il s'appuie sur les conclusions du dernier round de discussions qui s'est tenu en Suisse et a abouti à la signature d'un communiqué conjoint que les deux parties ont endossé cette fois sans équivoque. Selon lui, les narratifs du gouvernement de Kinshasa semblent changer avec l'adoption d'un vocable moins virulent qui a quelques mois, ce qui dénote d'une volonté pour les deux parties d'avancer sur un terrain de la recherche d'un compromis. À l'en croire, même si sur les champs de bataille, la situation reste la même, au niveau diplomatique, les lignes bougent et les cadres d'échange s'améliorent davantage. Pierre-Joseph Mugangu.
Sur un plan opérationnel, si on regarde l'activité militaire qui se passe des deux côtés, nous avons l'impression qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un stalemate, c'est du surplace. Mais sur le plan diplomatique, le gouvernement congolais, d'un côté, elle adopte une posture assez radicale, on ne négocie pas avec les terroristes, c'était ça le langage au début. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a une certaine mutation dans la façon dont les négociations sont en train d'être gérées. Le gouvernement est maintenant disposé à envoyer des délégués pour aller négocier directement avec des délégués du M23. Et donc, il y a cette mutation, il y a ces changements. C'est que la route est encore longue, mais déjà qu'il y ait des discussions, que les gens soient prêts à se rencontrer quelque part pour engager des discussions, nous sommes dans la bonne voie. Mais également, nous devrions faire attention aux intérêts, je dirais peut-être extérieurs, qui peuvent avoir aussi du tonus dans les discussions.
Pierre-Joseph Mugangu, analyste politique et membre de l'Institut Patrice Emery Lumumba, au micro de Radio Mandeléo. Et nous l'avons annoncé au sommaire de ce radiojournal. Plus de 5600 personnes du village de Bouzi, en groupement de Moudoussa, dans le territoire des Cabarets, vivent actuellement dans des conditions précaires après que leurs parcelles et maisons aient été emportées et ou détruites par des glissements de terrain qui s'y produisent depuis 2024. Répartis dans 557 ménages, parmi ces victimes figurent 786 adultes et 2623 enfants, dont 302 garçons et 485 filles de moins de 5 ans. À ceci s'ajoutent 677 garçons et 1159 filles en âge scolaire. Ces chiffres sont contenus dans un rapport rendu public par le comité des victimes et consulté par Radio Mandeléo jeudi 23 avril 2026. Détail, Myriam Mofano.
En croire ces rapports, ces catastrophes ont déjà causé d'importants dégâts depuis février 2024, dont la destruction de deux institutions scolaires, à savoir les complexes scolaires Fidelac et l'école Nyantende, en plus des locaux d'une coopérative d'épargne et des crédits de la place. À ces jours, plusieurs de ces familles se sont dispersées dans plusieurs entités mais sans adresse fixe. Les uns ont été concentrés dans une église, mais celle-ci aussi a pris feu le mois dernier, explique Héritier Mongane, porte-parole de victimes de cette catastrophe. Toutes les familles vivent aujourd'hui aujourd'hui dans une précarité par manque d'un espace de vie, n'ont pas où qu'ils suivaient et restent sans accès aux soins de santé de qualité ou encore à une alimentation, ce qui accentue leur vulnérabilité, ajoute Héritier Mongane. Certains ont tenté de retourner sur ces sites accidentés, mais de nouveaux éboulements les ont obligés à quitter, explique leur porte-parole, qui rappelle que les conclusions des recherches menées avaient chuté en recommandant la délocalisation de tous les occupants. Héritier Mongane appelle les autorités, les organisations humanitaires et personnes de bonne volonté de leur venir en aide, notamment par la mise en place des solutions de relocalisation, en plus d'un appui direct multiforme pour les relèvements. On l'écoute.
Les habitants ne veulent pas abandonner ces milieux parce qu'ils n'ont où aller. Après, en 2024, ils ont pris le retour quelques-uns vers leur village natal. Certains sont allés à Mulamba, d'autres à Tchouloué, d'autres à Nyangezi et Kaziba. Mais quand la guerre est arrivée là, ils étaient tous obligés encore de quitter la zone et rentrer encore dans la zone d'efficiration à cause de ces problèmes. Vraiment, nous disons aux gens de bonne volonté de nous venir en aide. Et surtout les humanitaires, vraiment qu'ils puissent y mettre l'urgence pour aider ces gens qui souffrent, parce que certains sont en train de mourir à cause de la famine, à cause du manque de soins médicaux. Même il y a des enfants qui ne sont plus scolarisés, parce que les moyens, la possibilité deviennent de plus en plus difficiles.
Précisons que dans un entretien en date du 12 avril, les géologues et spécialistes en glissement des terrains, Toussé Mugaruka Bibentio, avaient précisé que ces sites devaient être déclarés non viables car la tendance de ces mouvements n'était pas à s'arrêter. Citant les conclusions des recherches menées sur place, cet enseignant à l'université officielle de Bukavu avait alors conseillé la délocalisation des populations et l'abandon du sud pour permettre d'observer l'évolution du glissement.
Merci à vous Myriam Moufana, je vous prends Hélène Boudjirir. Renforcer la visibilité des actions humanitaires et améliorer la circulation des informations entre les communautés et les organisations d'intervention dans la province du Sud-Kivu. Tel est l'objectif d'une journée porte ouverte de plaidoyer pour la communication humaine organisée à Bukavu par les consortiums du réseau des radios et télévisions communautaires du Sud-Kivu, Rateco en sigle, et réseau des médias en ligne, Remel, en collaboration avec la Bénévolentia.
Organisée jeudi 23 avril 2026, cette journée porte ouverte a été organisée dans le but de faire connaître les bien fondés du projet Abariza Mahali, qui est un bulletin d'information humanitaire. Selon le coordonnateur du RATECO, Olivier Kiriza, cette initiative est née du constat selon lequel les informations humanitaires étaient jusque-là peu valorisées et insuffisamment relayées dans l'espace public local. Elle vise ainsi à combler ces déficits en facilitant la remontée des besoins des populations vers les organisations d'intervention indiquées. Sur le plan opérationnel, deux bulletins d'information sont produits en français et en swahili, puis diffusés à travers les radios membres du RATECO. Les contenus sont également publiés en ligne via les médias du Remel, ainsi que sur une plateforme numérique créée conjointement par RATECO, Remel et Bénévolentia, poursuit Olivier Kiriza. Celui-ci se félicite des résultats déjà perceptibles. C'est entre autres une meilleure connaissance des besoins des communautés par les acteurs humanitaires, une meilleure visibilité des actions menées sur le terrain et les renforcements forcément des capacités des journalistes dans le traitement des informations à caractère humanitaire. En termes de perspectives, le consortium entend élargir la couverture des zones d'intervention afin de toucher davantage des communautés affectées tout en renforçant la collaboration avec les organisations locales, nationales et internationales pour une réponse plus efficace aux besoins humanitaires. Le coordonnateur du RATECO, Olivier Kiriza, dans ses propos recueillis par Kassamier Virginie.
Je peux dire que depuis qu'on a commencé à travailler, à mener des activités par rapport à ce projet. Il y a déjà les besoins des communautés qui sont connus par les humanitaires. Il y a également les activités des humanitaires qui n'étaient pas connues mais qui sont déjà connues aussi par la communauté. Je dirais qu'il y a aussi des journalistes qui sont déjà formés dans le traitement des informations à caractère humanitaire, ce qui n'était pas dans les temps. Mais je dirais également qu'il y a cette communication qui existe déjà entre la base qui est la communauté, nous les médias et les organisations humanitaires, également les organisations de la société civile.
Dans sa mise en œuvre, le projet associe plusieurs organisations de la société civile, dont les conseils nationaux, des forats, des ONG humanitaires et des développements de la RDC CONAFOD qui apportent leur expertise dans l'accompagnement des communautés et l'identification des problèmes sociaux et humanitaires, notamment en période de crise.
Une radio, une fréquence. La radio Maïndéléo sur la 88.8 et la 91.7 MHz, toujours à votre service. Radio Maïndéléo, la radio du développement.
Et dans le reste de l'actualité, renforcer l'application des lois, sensibiliser le public et impliquer davantage l'État, les éditeurs ainsi que les acteurs culturels sont les principales stratégies pour mieux protéger les œuvres et garantir aux acteurs une rémunération équitable face à la montée du piratage et aux dérives du numérique. L'avis est du chef des travaux, Gervais Tiralui Roy, président de l'Union des écrivains du Congo, section du Sud-Kivu, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée le 23 avril de chaque année. Détail, Expédie Kalou.
Il déplore le fait que les écrivains, musiciens et autres artistes ne tirent pas pleinement profit de leurs œuvres, car elles sont souvent exploitées sans autorisation. Gervais Tiralui Roy évoque notamment le piratage, la reproduction illégale des contenus et la faible protection des droits d'auteur dans un contexte marqué par la circulation rapide des œuvres sur les plateformes numériques. Selon lui, cette situation fragilise le secteur culturel et décourage la création. Face à ces défis, Gervais Tiralui Roy appelle à une prise de conscience et insiste sur la nécessité d'un respect strict du droit d'auteur accompagné d'une meilleure organisation des acteurs culturels. Celui-ci recommande également une implication plus forte des autorités afin de garantir une protection des œuvres et une juste rémunération des créateurs.
Il faut que nous ayons des autorités politico-administratives sérieuses qui, par exemple, interdisent aux gens de jouer de la musique d'autrui sans l'autorisation. Et chaque fois qu'ils jouent, il faut que nous ayons une technique qui puisse détecter les lieux, la personne qui a joué de cette musique-là. Notre société congolaise de droits d'auteur, la SOCODA, n'a pas été capable de protéger les droits d'auteur. Parce que la mentalité congolaise est que telle chanson existe, je peux en jouer comme je veux. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas jouer de la chanson des Fali sans son autorisation. Comme moi, je ne peux pas porter votre chemise sans votre autorisation. Rien ne va pour les droits d'auteur. Mais le livre, quant à lui, il reste un document irremplaçable, le livre en dur.
Précisant que pour cette année 2026, l'UNESCO a désigné Rabat au Maroc comme capitale mondiale du livre.
Merci à vous, Expédie Kalou. Entre-temps, les Congolais sont appelés à adopter la culture de la lecture. Ils doivent également en écrire pour que les pays s'imposent à l'instar d'autres. L'appel est de l'écrivain Diomerci Mahano en marge de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée le 23 avril de chaque année. Il estime que les livres contiennent plusieurs voies de sortie aux multiples défis, à l'instar du chômage des jeunes, la pauvreté chronique, l'aridité du sol dans plusieurs villages, la sous-alimentation et plusieurs maladies qui affectent les populations. Pour lui, la lecture peut transformer la vie d'une nation et de ses citoyens. Il estime que les jeunes devraient être plus dans des bibliothèques que dans des futilités pour booster leur intelligence et contribuer à la construction de leur nation. Diomerci Mahano en parle dans cet élément.
Je m'adresse à la conscience de notre génération et surtout de jeunes. Je les invite donc à lire les livres, des livres dit-on. Un peuple qui ne lit pas s'expose à l'ignorance et l'ignorance coûte cher. Actuellement, comme nous le savons tous, la RDC souffre de beaucoup de problèmes comme le chômage des jeunes, la dépendance, la pauvreté chronique, alors qu'il y a pas mal de livres non lus qui nous proposent de bonnes voies de sortie. Mais ces livres ne sont jamais exploités. Nous devons donc comprendre que là où les livres sont absents, les opportunités meurent en silence. Certains jeunes continuent à vivre des illusions selon lesquelles il suffit d'avoir un diplôme pour réussir sa vie, alors que c'est très faux. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que j'ai écrit mon livre « De l'estrade à la bergerie, l'entrepreneuriat au cœur du changement ». Un livre qui sensibilise ses lecteurs à abandonner les salariats pour l'entrepreneuriat. Lisons pour transformer nos vies et notre nation. Écrivons pour transmettre nos connaissances et pour bâtir l'avenir.
L'écrivain Diomerci Mahano au micro des radios Maïndéleo. Et dans un autre chapitre, promouvoir le vivre ensemble et renforcer la cohésion sociale à travers la musique, le slam et la comédie, tel est l'objectif du concert dénommé Externational, prévu ce dimanche 26 avril 2026. Ce spectacle se tiendra dans la salle Saint-Égidio, située non loin du campus Moulindoua de l'Université catholique de Bukavu UCB, sur la route nationale numéro 2. Détail, Myriam Mofano.
L'annonce a été faite le jeudi 23 avril 2026 par Achille Argus, organisateur de l'événement, au cours d'une conférence de presse à Bukavu. Selon l'organisateur, les concerts débuteraient à 15h et se vont en cadre de rencontres, de partage et de rapprochement entre les différentes couches de la population de Bukavu et ses environs. Les billets d'entrée sont déjà disponibles et vendus à 5, 10 et 50 dollars, selon les catégories d'accès, indique Achille Argus, qui invite le public de Bukavu et d'ailleurs, en s'en procurer à l'avance, avant de garantir leur participation à ces spectacles. Les concerts seront suivis d'une étape dite « after party », réservée uniquement aux détenteurs de billets de 10 dollars et plus. Achille Argus est dans cet élément.
Le concert, c'est le concert external qui est un mot qui n'existe pas encore dans les dictionnaires français, mais c'est tout simplement un mot valise qui signifie au-delà de nos appartenances, au-delà de nos nationalités. On essaie un peu de voir l'humain, d'abord avec ses qualités, avec son côté humain, avant de voir d'où il vient, à quel groupe ethnique ou à quel pays il appartient. Et donc ce dimanche, c'est un concert de slam et musique, parce qu'on sera accompagné en première partie par de grandes figures de musique, d'humour et de slam de la ville de Bukavu. Le message clé, il est simple, on est parce qu'on vit dans une communauté et parce qu'on est entouré par des gens qui nous portent cette force-là d'exister ensemble. Et donc, au-delà de nos nationalités, pour moi, le message est que les frontières qui existent entre nos appartenances, nos religions, nos pays, nos identités, devraient tout simplement être des ponts ou des chemins.
Plusieurs artistes sont entendus à ces rendez-vous culturels, notamment Joyeux Bill Kabojo, Espoir Boulangaliré, Issa Les Rossignols, avec la présence d'autres talents locaux, nationaux et régionaux, conclut-il.
Dans un autre registre, une dizaine de délégués d'organisations non gouvernementales de développement ont participé mercredi dernier à un atelier de réflexion sur la redynamisation et la restructuration du Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement du Sud-Kivu, Krang de Sud-Kivu. Alain Kabika pour les détails.
Il s'agit essentiellement des délégués ONG des membres de cette structure dans la province du Sud-Kivu qui se sont réunis après environ 8 ans de léthargie consécutive à la rupture du financement et sans organisation d'une assemblée statutaire. Au cours de cet atelier, les participants ont défini des actions susceptibles d'aider à cette redynamisation et restructuration. Il s'agit respectivement de la mise en place d'un groupe de travail des 5 ONG des membres, de la préparation d'une note de crise et la cartographie des ONG des membres encore actifs. Ils ont également convenu de la mobilisation des ressources pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, les renforcements des permanences de l'exécutif et du conseil d'administration et enfin améliorer la communication au sein du réseau des ONG du Sud-Kivu à travers différentes plateformes. À l'issue de cet atelier, une mission spéciale a été confiée aux délégués des organisations qui ont participé à l'activité, explique le vice-président du Krang de Sud-Kivu, Deokar Chiramurambo, qui revient sur d'autres résolutions.
Une feuille de route avec des actions à mener a été définie et des responsabilités ont été également définies par rapport aux organisations membres. Chacune des organisations membres qui a participé aux travaux de cet atelier a été mandatée pour faire un travail de sensibilisation auprès des autres organisations membres qui n'étaient pas donc représentées aux travaux, afin que tous et chacun puissent s'organiser pour redynamiser leur réseau.
Signalons que cet atelier venait répondre aux préoccupations soulevées par un travail préliminaire réalisé en 2025.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, favoriser l'autonomisation économique des femmes vulnérables affectées par les conflits dans la province du Sud-Kivu, c'est l'objectif d'une formation organisée en faveur de ces femmes par le bureau de coordination de projets de la communauté des églises de la Pentecôte en Afrique, BICOP. Sigle. Détail, Hélène Boudjiriri.
Au cours de cette formation, ces femmes ont été outillées sur l'entrepreneuriat. Pour la coordinatrice nationale de BICOP, Solange Kassiba, les choix de ces sujets est dicté par le fait que la majorité de ces femmes sont entrepreneurs et d'autres ont émis les vœux de se lancer dans ce secteur pour leur survie. Elle fait savoir que le but est non seulement d'accompagner ces femmes, mais surtout leur offrir des compétences pratiques directement applicables et soutenir une transition durable de l'aide humanitaire vers l'autonomie. Après cette formation, chaque participante va bénéficier d'un kit qui cadre avec son domaine pour leur permettre de lancer chacun son activité, mais aussi appuyer celle qui avait déjà commencé. Solange Kassiba en parle.
Nous avons choisi de parler de l'entrepreneuriat pour ces femmes, étant donné que pendant cette période que nous sommes en train de traverser, le contexte n'a pas permis aux femmes d'abord qui étaient démunies de leur part. Elles sont encore devenues très très pauvres et n'ont rien à cause des conditions qui sont difficiles pour tout le monde, mais encore très très difficiles pour ces femmes-là. Dès que nous terminons ici, nous allons octroyer les kits d'une valeur de $100 à chaque femme.
Les bénéficiaires remercient les BICOP et ses partenaires pour l'accompagnement non seulement en matériel, mais aussi en renforcement des capacités dans les stratégies pour le bon fonctionnement de leurs initiatives. L'une d'elles, Zawadi Maroume, en parle.
À travers ces enseignements qu'on vient de nous enseigner ici, je viens d'apprendre que pour que je sois quelqu'un, je dois d'abord chercher un enseignant qui doit m'enseigner. Je dois d'abord créer des connaissances. Pour qu'on soit un entrepreneur, il faut d'abord la patience. Dans toi aussi, qu'il y ait un objectif. Ce n'est pas à dire que tu viens de commencer aujourd'hui et c'est le jour que tu vas voir des résultats. Il faut une patience.
Notez que 60 femmes sont bénéficiaires de ces projets dont la méthodologie repose sur la compétence économique par la formation à l'esprit entrepreneurial.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maëdéléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, le coach Sifo Miezi est le nouvel entraîneur du DC Virunga de Goma. À la suite d'une phase aller compliquée en Ligue 2 de la Lina Foot Zone Est et B, le comité dirigeant du club a décidé de réorganiser son staff technique en nommant à la tête de l'équipe l'expérimenté coach Sifo Miezi. Bien connu dans le paysage footballistique congolais, les techniciens arrivent avec la mission de redynamiser les montagnards et de relancer leur dynamique en championnat. L'objectif affiché par la direction est clair, améliorer les performances à Ligue 2 et viser plus haut. Outre le championnat, Sifo Miezi aura également la lourde responsabilité de conduire les DC Virunga lors de la phase finale de la Coupe du Congo. Il remplace à ses postes Jimmy Boula qui avait entamé la saison avec Virunga. Sifo Miezi quitte les Anges Verts de Kinshasa pour rejoindre Virunga de Goma. Il est connu au Sud Kivu pour avoir entraîné respectivement les FC Étoiles du Kivu, l'OC Sport et l'Académie Réale. En Ligue 2 avec le Darun Club Virunga, Sifo Miezi retrouvera l'OC C'est Mungano de Bukavu qui occupe la deuxième place au classement et qui se bat pour finir à la première position en vue de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.
La revue de presse, Radio Maïndélé au Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'appel au vivre ensemble lancé par le Barza intercommunautaire et la suppression de plusieurs barrières illégales sur les tronçons routiers Miti Boulambika à la grande satisfaction de la population et des usagers font partie des sujets commentés par la presse jeudi 23 avril 2026. Alain Kabika pour la revue de presse.
Les notables des différentes communautés de la ville réunis au sein de l'organisation Barza intercommunautaire ont échangé avec le maire de Bukavu, le docteur Nicolas Kalangalilwa, autour des questions liées à la cohésion sociale, au vivre ensemble et au développement urbain, écrit le site internet kabareactu.info. Au cours de ces échanges, souligne ces médias, les participants ont insisté sur la nécessité de consolider l'unité entre les communautés, présentée comme un socle essentiel pour un développement durable de la ville. Les notables présents ont formulé plusieurs recommandations appelant à une implication accrue de l'ensemble des habitants dans la construction d'un cadre de vie apaisé et solidaire. Le maire de Bukavu, cité par les médias pour sa part, salue l'initiative mettant en avant l'importance du vivre ensemble dans la gestion actuelle de la ville. S'inscrivant selon lui dans la vision portée par l'AFC 123, il a indiqué que cette approche vise à renforcer les caractères cosmopolites de la ville en favorisant l'inclusion et la participation de tous les citoyens au-delà des appartenances communautaires. De son côté, le Barza intercommunautaire a souligné que la cohésion sociale, l'unité entre les communautés et le développement inclusif figure parmi les priorités mises en avant dans les échanges avec les autorités locales. L'organisation estime que cette dynamique contribue à améliorer le climat de collaboration et à faciliter la mise en œuvre des projets de développement. Les notables se sont dit satisfaits des avancées observées qu'ils jugent favorables à l'instauration d'un climat de paix propice aux initiatives de développement. En réponse, souligne Kabaré Actu, le maire a réaffirmé son engagement à poursuivre les actions en faveur de la cohésion sociale, du vivre ensemble, ainsi que du développement urbain, de l'assainissement et de la sécurité. Il a rappelé que le vivre ensemble constitue un levier important pour promouvoir un développement concerté et inclusif au bénéfice de l'ensemble de la population. Sur la route Métibulambika, longtemps synonyme de stress et de dépenses imprévues, un vent de soulagement souffle enfin, annonce dans un autre sujet le site internet Beke Info. Le week-end dernier, poursuit ce dernier, plusieurs barrières illégales érigées par des hommes armés ont été démantelées sur décision de l'administrateur du territoire sous la F-123 en collaboration avec les forces vives locales. Pour des habitants et voyageurs qui empruntent cette route, c'est la fin d'un quotidien pesant. Selon la société civile de Bunyakiri, 8 barrières ont été supprimées. Pourtant, il y a encore quelques jours, cette route comptait plus de 15 points de contrôle. À chaque passage, insiste Beke Info, il fallait payer entre 2000 et 3000 francs congolais. Une somme qui, cumulée, devenait insupportable pour des familles déjà fragilisées. Parfois, tu arrives à destination sans rien en poche, juste à cause des barrières, raconte un conducteur de taxi moto dit motard, visiblement soulagé. Cette mesure est le résultat de plusieurs mois de plaidoyer menés par la société civile, fatiguée de voir la population étouffée sous ses charges informelles. Mais sur le terrain, tout le monde ne parlait pas d'une suppression totale. Certains habitants restent prudents. Il faut aussi penser à la sécurité, confie un voyageur rencontré. Il évoque notamment la proximité du parc national de Kahuzi-Biega, où un minimum de contrôle pourrait rester nécessaire. Les usagers espèrent voir disparaître totalement toute forme de tracasserie sur cet axe routier, conclut le site internet d'information Beke Info.
Un communiqué avant la fin de ces radio-journal, la régie des eaux SA, direction régionale du Sud-Kivu, siège de Bukavu, demande à ses abonnés de passer dans ses guichets caisses pour régler toutes les factures restées non payées jusqu'à ce jour. Elle informe ses abonnés que les factures du mois de mars sont entre leurs mains. Quiconque ne présentera pas ses reçus de paiement, comme preuve qu'il est passé à un autre guichet, se verra interrompre la fourniture d'eau et le rétablissement sera conditionné par le versement des frais, ainsi que des pénalités de retard conformément à l'article du règlement d'exploitation de la régie des eaux. Elle prie à tout abonné détenant une ou plusieurs factures non encore payées de passer dans les guichets de ses agences de Mungu, Ibanda, Kadutu, Nguba, Chimpunda, Bagira, Panzi, Chai, Kamagema, Kassie, Indépendance et Brasserie pour leur paiement. Pas de négociation ni d'intervention, s'il vous plaît, à bon entendeur, des mi-mots suffit. On se fait à Bukavu le 17 avril 2026, c'est la direction qui signe. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Alain Zar. Au microphone pour la présentation, c'était bien moi, Omer Moudekereza. Au revoir.